Bonjour, je suis Annie Lobé, journaliste scientifique. Je tenais à vous faire part de l'évolution de la situation à Fukushima et ses conséquences sur le monde entier et notamment la France depuis la mise à jour de l'article Feu nucléaire sur le Japon. Donc là, je prends en compte, après avoir scruté la presse jusqu'au 24 mars inclus, le jeudi 24 mars inclus, je prends en compte l'évolution de la situation telle qu'elle a été relayée par les médias. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que les autorités françaises nous disent que les niveaux de radioactivité qui vont traverser la France, c'est 1000 à 10 000 fois moins que ce qui s'est passé pendant l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986. Mais le message officiel pendant Tchernobyl, c'était qu'il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, il y aurait moins que rien. Comment est-ce possible ? Évidemment, cette fois-ci, ils ne peuvent pas nous dire qu'il n'y a rien. Donc ils nous disent qu'il y a quelque chose, mais ça ne fait rien. Donc ça veut dire que les autorités, finalement, ont tellement peur de nous affoler qu'elles ne nous disent pas la vérité, encore une fois. C'est-à-dire qu'on fait en ce moment le remake de Tchernobyl avec simplement quelques variantes. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si l'Institut de sûreté nucléaire, l'IRSN, ne trouve rien dans ces mesures, c'est parce qu'il ne pleut pas précisément. Là, je vous parle, c'est le vendredi 26 mars que j'enregistre ce topo. Donc, jusqu'à présent, il n'a pas plu. Donc, les radionucléides qui sont en suspension dans l'air n'ont pas encore été rabattus par la pluie. Et les capteurs de l'IRSN sont situés au niveau du sol. On l'a très bien vu à la télé et puis sur des photos dans la presse. Donc, c'est normal qu'il n'ait rien mesuré. Pour l'instant, les radionucléides sont en suspension probablement dans la haute atmosphère, mais dès la première pluie, ils risquent d'être rabattus sur le sol. D'où le conseil de bon sens que l'on peut d'ores et déjà donner, et il est regrettable que les autorités, de peur de nous affoler, ne nous donnent même pas ce conseil de bon sens, eh bien, c'est de ne pas sortir s'il pleut, de rester à l'abri et d'avoir toujours sur soi un parapluie pour le cas où on se ferait surprendre. Également, un autre conseil que je peux donner, c'est-à-dire les choses évidentes, hein, ne pas manger dans la rue, parce que sinon vous allez avaler ces radioéléments s'ils tombent sur votre sandwich. Transportez toutes vos courses dans des cabas fermés pour éviter une contamination par l'air. Quand vous arrivez chez vous, eh bien, enlevez vos chaussures, peut-être même à l'extérieur de chez vous, pour éviter de ramener à l'intérieur les radionucléides qui seraient éventuellement déposés sur le sol dès les premières pluies. Comme ça, vous éviterez de les rentrer chez vous. Je m'adresse également, j'ai une pensée émue pour tous les Français et d'ailleurs tous les étrangers qui sont restés au Japon, qui sont restés à Tokyo notamment. J'ai rencontré dernièrement une personne qui m'a dit qu'elle avait une amie dont le fils est au Japon actuellement. Il était en France pendant l'accident de Fukushima en séminaire. Il est retourné à Tokyo auprès de sa femme et de ses deux enfants. Il refuse maintenant de partir, en disant que la presse française exagère et que les choses ne sont pas si graves que cela. Alors moi, ce que j'ai envie de dire à tous les expatriés, c'est pourquoi croire plutôt le bourrage de crâne des autorités japonaises que le bourrage de crâne des autorités françaises ? Utilisez votre bon sens. Il y a une centrale nucléaire à 250 km de là où vous êtes qui est hors de contrôle actuellement. C'est tellement clair que bon, il faudrait vraiment avoir des œillères pour ne pas le voir. Donc éloignez-vous si vous le pouvez, et mon conseil s'étend également à tous les Tokyoïtes qui sont sur place, qui sont prisonniers peut-être de leur amour pour le Japon, mais reste à savoir maintenant si vous voulez continuer à aimer le Japon ou si vous préférez aimer la vie. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, le Canard enchaîné en page 4 du mercredi 23 mars écrivait ceci: les directeurs des sociétés du CAC 40 implantées au Japon, Total par exemple, ont aussi pratiqué le sauve-qui-peut, comme ceux des entreprises de luxe qui ont fermé boutiques, Chanel, Dior, Vuitton, Clarins, etc. Les responsables locaux d'Areva ont retenu des chambres à Osaka, loin de Tokyo. C'est dire si personne n'avait pris pour argent comptant les affirmations lénifiantes de plusieurs ministres français qui ne cessaient, effectivement au début ils faisaient ça, de répéter « il s'agit d'un accident, non d'une catastrophe nucléaire ». En réalité, les salariés d'Areva qui ont pris la poudre d'escampette n'étaient pas des responsables locaux d'Areva, mais des ingénieurs français en train de préparer l'arrivée prévue d'une cargaison de MOX en provenance de la France. Cela a été révélé par l'association Robin des Bois. Ces ingénieurs étaient présents dans la centrale nucléaire de Fukushima au moment du séisme et du tsunami, et ce qui a été révélé par le journal Le Monde, c'est qu'ils ont tout de suite pris la fuite et sont rentrés directement en France. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à écouter mon topo du 7 avril, où tout cela est expliqué en détail. Autre élément qui est significatif de ce qui se passe à Tokyo, c'est le niveau de 210 becquerels par litre qui a été détecté donc, pour l'iode-131, l'iode du radioactif 131, et qui a conduit les autorités à demander aux personnes de ne pas nourrir les bébés de moins d'un an, ne pas leur donner d'eau du robinet. Donc, cette information est parue dans le International Herald Tribune, qui est l'édition mondiale du New York Times, le 24 mars. Ce niveau de 210 becquerels par litre, alors que la valeur limite recommandée pour les enfants, c'est 100 becquerels par litre. Pour les adultes, la valeur limite recommandée est 300 becquerels par litre. Donc, elle n'est pas très loin non plus de la valeur actuellement mesurée. Alors, sur ce qui se passe à Tokyo, d'abord on nous dit, les autorités japonaises disent que les vents poussent la radioactivité vers la mer. Mais Tokyo, bien évidemment, n'est pas en mer. Tokyo est au sud de la centrale nucléaire. Et Tokyo, s'il y a déjà de la radioactivité dans l'eau, c'est qu'il y en a aussi dans l'air. Donc, c'est la raison pour laquelle je suggère à tous ceux qui peuvent m'entendre de partir, tout simplement. François, du jeudi 24 mars, en page 8, écrivait « Où en est la radioactivité au Japon ?» Selon une estimation de l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français, la contamination de l'air sur le site de Fukushima atteindrait des taux de l'ordre de 10% des rejets estimés à Tchernobyl. À Tokyo, la radioactivité se situe actuellement aux alentours de 100 becquerels par mètre cube, dose qui n'affecterait le corps humain que si elle se maintenait 6 mois durant. Mais, si vous voulez, ce qui se passe, et on le sait bien, c'est que la source n'est pas tari encore, puisque la centrale est hors de contrôle et on ne sait pas si ça va durer 2 semaines ou 2 mois ou plus. Donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, quand on parle de faible dose ou de dose inférieure aux valeurs limites, il faut aussi, après, considérer la durée d'exposition. Et comme, pour l'instant, cette durée d'exposition n'est pas connue, eh bien, c'est la raison pour laquelle je suggère de prendre un maximum de précautions. Je vous continue la page 8 de François du 24 mars. Hier, 2 techniciens ont été blessés alors qu'ils tentaient de rétablir l'électricité dans le réacteur numéro 1. L'ensemble du personnel a ensuite été évacué en raison d'une fumée noire qui s'est échappée du réacteur numéro 3, le plus endommagé. Citation de Thierry Charles, directeur de la sûreté des installations à l'IRSN. Il pourrait s'agir d'une réaction entre le combustible en fusion et le béton, mais on ne sait rien de ce qui se passe vraiment à l'intérieur du réacteur. Donc on conclut qu'un taux de radioactivité particulièrement élevé a également été constaté dans le réacteur numéro 2. Selon les experts, donc ces experts français, les ouvriers japonais reçoivent en 1 heure une dose de radiation 20 fois supérieure à celle autorisée pour les travailleurs du nucléaire en France. Je voudrais terminer par rapport à l'expertise, puisque Le Figaro du 24 mars nous dit que les experts manquent d'informations. Et je vous lis, même en France, si vous voulez, les experts en sont en fait réduits à faire des suppositions. Je vous lis, les spécialistes de l'autorité de sûreté nucléaire, ASN, gendarme nucléaire français, ne sont pas rassurés sur ce qui se passe à Fukushima, la centrale située à 250 km au nord-est de Tokyo. Hier, de la fumée noire s'échappait à nouveau du bâtiment du réacteur 3 de la centrale. Or, cette unité contient du MOX, du combustible MOX, dont les rejets sont particulièrement radioactifs. Au cas où vous ne le sauriez pas, dans le MOX, il y a du plutonium. Alors ça, c'est donc Le Figaro du jeudi 24 mars, en page 13. L'opérateur TEPCO travaille à rétablir le courant dans la centrale, mais cette opération pourrait durer. Donc, un des experts français dit « La situation est très incertaine et nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans les réacteurs sur place. » L'IRSN a installé une balise sur le toit de l'ambassade de France à Tokyo. Pour l'instant, les valeurs enregistrées correspondent à 3 fois le bruit de fond lié au rayonnement naturel. Voilà, donc il faut savoir que les responsables de TEPCO ne donnent aucune information, même aux autres experts dans le monde, et que pour obtenir des informations de la part de TEPCO, l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire française, consulte le site internet du géant de l'électricité comme n'importe quel citoyen lambda. Ils en sont vraiment réduits à faire des suppositions. Donc vous voyez bien qu'avec des experts qui en sont réduits à faire des suppositions, les politiques n'ont rien de sûr, les politiques dans tous les pays, n'ont aucun élément sûr pour se décider, et donc ils en concluent qu'il ne faut pas affoler les populations. Mais nous, c'est à nous en fait de prendre nos responsabilités et d'utiliser notre bon sens finalement, puisqu'on a l'expérience de Tchernobyl, et on sait que les autorités sont très très douées pour mentir. Alors, jeudi 24 mars, La Croix, page 8, nous dit... Au large de Fukushima, des prélèvements d'eau de mer ont été réalisés à 100 mètres de la berge. Les résultats montrent des niveaux en iode 131 de l'ordre de 100 fois supérieurs à la norme japonaise, fixée à 0,04 becquerel par centimètre cube, précisait hier l'ASN. Vous savez également qu'il y a eu des prélèvements alimentaires qui ont été, alors ça je ne sais plus dans quel journal c'était, mais enfin ça a été dit, de la nourriture qui a été mesurée comme étant contaminée. Mais cette nourriture était prélevée à des distances assez grandes, hein, 80 ou 100 km de la centrale. Je voudrais donc pour terminer vous lire un article très important qui est paru dans Libération du jeudi 24 mars à la page 22. C'est un article écrit par Bernard Laponche, qui est polytechnicien, docteur en sciences en physique des réacteurs nucléaires, expert en politique de l'énergie et de maîtrise de l'énergie. L'article s'intitule « Nucléaire, le moyen le plus dangereux de faire bouillir de l'eau ». Le caractère mystérieux de l'énergie nucléaire et l'aura scientifique qui l'entoure masquent pour beaucoup la réalité de son utilisation dans les centrales nucléaires. Il s'agit de chauffer de l'eau sous une pression suffisante ou de la faire bouillir afin de produire de la vapeur, produisant à son tour de l'électricité grâce à un turbo-alternateur, comme dans une chaudière à charbon. Un réacteur nucléaire est une chaudière dans laquelle la chaleur, au lieu d'être produite par la combustion du charbon, par exemple, est produite par la fission des noyaux d'uranium-235 contenus dans le combustible, des crayons d'uranium ou d'oxyde d'uranium. La fission est en quelque sorte une explosion du noyau d'uranium provoquée par sa rencontre avec un neutron qui donne naissance à des produits de fission, morceaux du noyau initial, et à quelques neutrons qui, à leur tour, vont provoquer des fissions dans les noyaux voisins. C'est la réaction en chaîne. Ces produits de fission sont propulsés à grande vitesse par cette explosion, provoquant la montée en température du combustible. Ils sont instables et par conséquent fortement radioactifs, émettant des rayonnements qui produisent à leur tour un réchauffement du combustible. L'entretien de la réaction en chaîne dans le réacteur permet de chauffer l'eau ou de la faire bouillir sous une pression suffisante pour produire de la vapeur, permettant ensuite de produire de l'électricité. Dans les réacteurs du type de ceux équipant presque toutes les centrales nucléaires au monde, la chaleur du combustible est évacuée par de l'eau, réacteur à eau sous pression, ou par la vapeur produite par l'ébullition de l'eau, réacteur à eau bouillante. Donc je vous rappelle que les réacteurs à eau sous pression, c'est ce qu'on a en France, et les réacteurs à eau bouillante, c'est ce qu'on a au Japon. Tout l'objet d'un réacteur nucléaire est donc de produire cette chaleur. L'inconvénient est que cette production de chaleur est accompagnée de la production de matières radioactives extrêmement dangereuses, et l'objet de la sûreté nucléaire est d'empêcher que ces matières radioactives s'échappent du réacteur du fait d'un accident qui détruirait les protections du milieu contenant les combustibles et dans lequel se produit la réaction en chaîne, le cœur du réacteur. En situation normale, par exemple, pour remplacer les combustibles usés par des combustibles neufs, ou en situation d'alerte par rapport à un accident possible pour une cause externe ou interne, on arrête la réaction en chaîne grâce à des barres de contrôle dont le matériau absorbe les neutrons. Mais du fait de la chaleur que continuent à produire les produits de fission radioactifs, il faut absolument continuer à refroidir les combustibles et donc à faire circuler l'eau de refroidissement. L'accident le plus redouté est la perte du refroidissement, soit du fait de défaillances techniques dans le fonctionnement des systèmes de sécurité, accident de Three Mile Island aux États-Unis en 1979, soit du fait de la perte d'alimentation électrique des pompes, défaillance du réseau, non-fonctionnement des diesels de secours, par exemple à cause d'une inondation ou de la destruction de la salle des machines, accident de Fukushima au Japon. Si le cœur du réacteur n'est pas refroidi, la chaleur résiduelle, qui reste considérable, conduit à la détérioration du combustible qui peut aller jusqu'à fondre, partiellement ou totalement. Du fait d'un enchaînement de non-fonctionnement de certains dispositifs techniques, de la production d'hydrogène, de fuites éventuelles, on arrive non seulement à la destruction interne du réacteur, mais aussi à la projection à l'extérieur de quantités plus ou moins considérables de gaz et de matières radioactives. Quel décalage effrayant entre le drame de Fukushima et l'objet de ces réacteurs aujourd'hui en perdition, faire bouillir de l'eau. Il existe de multiples moyens de faire chauffer ou bouillir de l'eau et de produire de la vapeur à 300 degrés. Eau vapeur dans un réacteur à eau bouillante ou de l'eau sous pression à 320 degrés, eau dans un réacteur à eau pressurisée. Température relativement basse, d'où le mauvais rendement des centrales nucléaires. Par la combustion du charbon, peu recommandée à cause des émissions de CO2, ou du gaz naturel, meilleur de ce point de vue du fait de la cogénération produisant de la chaleur et de l'électricité, ou du cycle combiné à haut rendement pour la production d'électricité, mais aussi du bois, des déchets végétaux et du biogaz. Donc il y a la combustion du charbon, combustion du bois, combustion de déchets végétaux et de biogaz. On peut aussi capter le rayonnement solaire, concentré par des miroirs, pour produire de l'électricité, solaire thermodynamique. Il existe aussi de nombreux moyens de produire de l'électricité sans faire bouillir de l'eau. Hydraulique, barrage, fil de l'eau, éolien, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, c'est-à-dire concentration par miroir des rayons du soleil pour atteindre des températures suffisamment élevées, géothermie à haute température, énergie marine, marée motrice, énergie des vagues, hydrolienne utilisant les courants, énergie thermique des mers. Certes, toutes ces techniques ne sont pas industriellement développées, et certaines restent plus chères que les centrales thermiques, mais aucune n'a bénéficié des soutiens publics colossaux qui ont accompagné, depuis l'origine, le développement de l'énergie nucléaire. Toutes peuvent présenter certains risques, mais aucune ne présente le danger terrifiant, étalé dans le temps et dans l'espace, de la catastrophe nucléaire. On ne nous fera pas croire que l'ingéniosité humaine qui a su maîtriser le feu il y a 400 000 ans et a inventé et développé depuis des machines fort astucieuses, le vélo et le train en sont parmi les plus remarquables, n'est pas capable de développer rapidement et à grande échelle l'utilisation de toutes ces énergies renouvelables. On peut donc se passer du nucléaire sans se priver d'électricité. De plus, en particulier en France, la priorité qui s'impose, tant pour des raisons de sécurité énergétique que de risques climatiques, de réduire les consommations d'énergie par la sobriété et l'efficacité énergétique, s'impose aussi pour l'électricité. On peut et il faut réduire sa consommation dans les pays les plus riches et pour les populations les plus riches. Il y a quelques jours, dans un grand quotidien français, quatre fervents supporters des centrales nucléaires ont écrit cette phrase terrible qui condamne à elle seule leur propre cause. Il existera toujours et partout un scénario dans lequel une catastrophe comme celle de Fukushima pourra se produire. Phrase au futur et non au conditionnel. Ainsi, il faudrait que l'humanité s'habitue à de telles catastrophes de temps en temps, tantôt dans un pays, tantôt dans un autre. Le rythme d'occurrence s'accroissant probablement avec le nombre des pays qui choisiraient de construire des centrales nucléaires? Eh bien non. Un tel futur est inacceptable. Nous préférons construire et vivre un futur énergétique plus simple, plus sobre et plus ensoleillé. Voilà, donc cet article écrit par un spécialiste du nucléaire, je crois que vraiment il faut le diffuser parce que Quand on nous dit que la France ne peut pas sortir du nucléaire, eh bien, vous voyez bien que là, avec la lecture de cet article, que c'est un mensonge éhonté. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à vous reconnecter régulièrement sur le site de Santé Publique Édition, puisque dans la mesure du possible, je continuerai à vous informer en ayant scruté la presse de ce que vous n'auriez peut-être pas eu le temps de lire vous-même. Et merci aussi de faire passer le message autour de vous. Au revoir.